Est-ce que vous avez des questions? Des sujets d'intérêt particulier? Sinon, on prend le guide d'entretien que j'ai préparé.
Moi, tout à l'heure, on en discutait vite fait avec Muriel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Gulfstream et tout. Je sais pas si
vous connaissez bien, oui.
Si vous avez des informations sur le sujet et tout, je serais preneur.
Voilà. Alors, si vous voulez, je vais vous faire un petit topo sur le fonctionnement de la machine climatique. Mais auparavant, il y a une chose que je veux partager avec vous, c'est que les questions qui gouvernent notre avenir ne sont pas techniques. C'est-à-dire que le Gulfstream, il fera bien ce qu'il voudra en fonction de notre comportement. On n'a aucun moyen de dicter sa conduite et son comportement au Gulfstream. La seule chose qu'on peut faire, c'est prédire comment il va se comporter si jamais on fait ceci ou on fait cela. Donc, mon intérêt se porte beaucoup plus. Il y a deux facteurs d'incertitude dans le changement climatique. Il y a une part d'incertitude qui est liée aux lois de la physique, à la mécanique des fluides, à la théorie du chaos. On dit que si on double la concentration de CO2, c'est-à-dire, il y a 200 ans, on était à 280 parties par million, en ce moment, on est à un peu plus de 410, et les calculs qui ont été faits, c'est si on passait à 560, c'est-à-dire ce qu'on appelle 2 CO2, le double de la concentration qui existait à l'ère pré-industrielle. On dit que dans ce cas-là, la valeur centrale du réchauffement moyen, tous les mots comptent là-dedans, c'est la valeur centrale et c'est le réchauffement moyen, sera de 3 degrés. Alors, s'il est de 3 degrés en moyenne sur la planète entière, ça veut dire qu'il y aura 4,5 degrés dans l'hémisphère nord et probablement 5 degrés dans l'Arctique. Mais par ailleurs, la valeur centrale de 3 degrés est affectée d'une période d'une incertitude qui est assez forte. Ça peut varier entre 1,5 et 4,5. Et évidemment, après on décline ça, s'il y a 4,5, eh ben, dans l'hémisphère nord il y aura 6 et dans l'Arctique il y aura 7. C'est des trucs qu'on n'a jamais vus depuis des centaines de milliers d'années. Alors, la deuxième source d'incertitude, c'est que tout ceci dépend du fait, est-ce qu'on ira jusqu'à 550 ppm ou est-ce qu'on s'arrêtera avant? En gros, il y a deux paramètres très différents. Il y en a un, ce sont les lois de la physique, et il faut qu'on sache les décoder, comprendre quelles conséquences elles vont avoir, mais on n'y peut rien. Et la deuxième, c'est la plus ou moins grande sagesse de l'humanité. C'est le rôle historique de la Convention citoyenne sur le climat, quoi. Vous êtes les premiers à pouvoir éventuellement dire aux politiques arrêtez de déconner, quoi. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose qui vous paraît.
Oui, on vous écoute.
Non, mais...
Voilà, donc, pour en revenir au Gulfstream, qu'est-ce que c'est que le Gulfstream? Le Gulfstream, c'est simplement une branche régionale d'un circuit mondial. Il y a un circuit mondial que les Anglais appellent le conveyor belt et qu'en français on appelle le tapis roulant. C'est le nom scientifique de tout ça, c'est la circulation thermohaline. Thermohaline, ça veut dire que d'une part, c'est une question de température, et d'autre part, c'est une question de quantité de sel. Donc, qu'est-ce qui met en route la circulation thermohaline, dont le Gulfstream n'est que l'une des parties, l'une des branches? Il existe d'autres branches de la circulation thermohaline. Par exemple, au large du Japon, devant Fukushima, il y a un courant tout à fait comparable au Gulfstream, qui s'appelle le Kuroshio, ce qui en japonais veut dire le courant noir. Et le Kuroshio et le Gulfstream ont des rôles assez semblables, sauf que le Gulfstream, il est dans un océan relativement restreint, qui est l'océan Atlantique, tandis que le Kuroshio est dans l'océan Pacifique, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, et donc il ne peut pas avoir le droit au même à la tête d'affiche, il ne peut pas être aussi célèbre que le Gulfstream, parce qu'il ne joue aucun rôle pour Vancouver ou Seattle. alors que le Gulfstream joue un rôle pour Brest ou pour les villes de l'Ouest européen. Donc, comment commence cette aventure? Vous avez des vents alisés dans les tropiques, les vents font bouger l'atmosphère, mais à la surface de l'océan, ils font bouger la surface de l'eau, ils créent des courants. Et les courants en question, ils sont soumis à la rotation de la Terre. Quand la Terre tourne, bien, tous les courants qui sont dans l'hémisphère nord sont déviés vers la droite, et tous les courants qui sont dans l'hémisphère sud sont déviés vers la gauche. C'est le phénomène dit de Coriolis, de l'accélération de Coriolis. Donc le Gulf Stream tourne dans le sens des aiguilles d'une montre parce qu'il est dans l'hémisphère nord et que les courants qu'on met en route dans l'hémisphère nord sont déviés vers la droite à cause de la rotation terrestre. Donc, c'est cool. Quand le Gulf Stream se met en route, alors vous savez que Benjamin Franklin s'était aperçu de tout ça il y a plus de 200 ans. Il avait remarqué que les navires à voile qui faisaient le parcours entre l'Angleterre et les États-Unis pour transporter le courrier, au retour, s'ils restaient près du bord, ils mettaient 15 jours de moins pour retourner à l'Angleterre. C'est parce que le Gulf Stream avance à 1 mètre par seconde et que les voiliers en question, ben, ça les intéressait de faire 86 km de plus par jour. Puisqu'un kilomètre par seconde, ça fait 86 400 mètres par jour. Donc, le Gulf Stream transporte des eaux chaudes et peu salées de la zone des tropiques. Au fur et à mesure qu'il monte vers le nord, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour rejoindre l'Angleterre et compagnie, l'eau se refroidit parce qu'il y a de l'évaporation et que l'évaporation s'en refroidit, donc elle se concentre en sel. Il y a moins d'eau, mais il y a toujours autant de sel. Donc, vous voyez arriver le terme thermohaline. Thermohaline, c'est parce que la chaleur fait s'évaporer, on a un courant chaud qui se refroidit et qui se concentre en sel. Quand on a de l'eau froide très salée, ben elle est plus dense que de l'eau chaude moins salée. Elle est plus lourde. Et vous savez ce qui se passe pour de l'eau plus lourde, eh ben elle plonge. Elle ne peut pas rester en surface. Donc, en fait, quand elle arrive au voisinage un peu entre le Groenland et l'Amérique du Nord, là il se passe des phénomènes qu'on appelle catastrophiques au sens de la physique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout continus, quoi. Ce sont des phénomènes brutaux et tout à fait apériodiques, quoi. Tout d'un coup, il y a une lame d'eau froide et salée qui est en équilibre instable au-dessus du reste de l'eau océanique qui est plus chaude et moins salée. Ça ne peut pas durer. Donc il y a ce qu'on appelle des plongées profondes. Cette eau se descend jusqu'à sa profondeur d'équilibre. Selon sa température et selon son degré de salinité, elle va s'arrêter à 2000 mètres, à 3000 mètres ou à 4000 mètres, selon comment elle était. Et tout ça va mettre en route le moteur de la circulation thermohaline. Si vous voulez, je peux vous montrer des illustrations, quoi. C'est un immense courant qui parcourt tout le plancher océanique et qui tapisse le plancher océanique d'eau froide et plus salée. C'est comme ça que partout dans l'océan, même dans la région tropicale, on a de l'eau à 5 degrés à moins de 1000 mètres, à partir de plus de 1000 mètres. Voilà, est-ce que ça répond à vos questions sur le Gulf Stream et est-ce qu'on peut passer à autre chose?
Oui.
Bah Mathieu, si tu veux plus rentrer dans le sujet, enfin.
Ben moi j'ai après dites-moi si je me trompe, mais c'est surtout par rapport à ce qui se passe là-bas et les déchets, parce que j'ai entendu dire il y a des îles de déchets qui du coup se retrouvent à être là-bas, parce que vu comme les courants marins se rejoignent dans le Gulf Stream, et ben tous les déchets de la planète se retrouvent là-bas, ou une bonne partie.
Voilà, donc ça c'est la question des continents d'ordures, quoi. C'est la question des 10 millions de tonnes de plastique qui chaque année sont rejetées dans l'océan et qui se regroupent dans des grands gyres océaniques. Donc là on est un peu dans la même situation dont je parlais tout à l'heure à propos de la rotation terrestre, c'est-à-dire que dans les régions proches de l'équateur, il y a des zones d'accumulation, quoi, la mécanique des fluides combinée avec la rotation terrestre a pour effet de rassembler les déchets dans des zones qui peuvent être grandes comme l'Europe et dans laquelle il y a une concentration des déchets plastiques qui est plus élevée que partout ailleurs. Le même phénomène se produit à toutes les échelles, c'est-à-dire que si vous allez au fond du golfe de Gascogne, dans une région qui doit être 100 ou 1000 fois plus petite, vous avez un continent d'ordures qui doit faire 2 ou 3 kilomètres de diamètre, qui est simplement qu'au fond du golfe, les courants concentrent les déchets rejetés par la Corogne ou rejetés par Bordeaux.
D'accord. Et quel est l'impact sur l'environnement de ça? Elle est monstrueuse, non?
Alors, c'est pas le sujet que je connais le mieux. J'ai un ami qui est un peu agacé par le côté médiatique de ce truc-là. C'est-à-dire que lui, il connaît bien et il considère que c'est pas le pire des problèmes. Si vous voulez, je vais pas rentrer dans les détails. Éventuellement, je peux vous donner son nom pour qu'il vous explique pourquoi il considère pas que. En gros, ils disent que ces déchets finissent par couler. Que c'est pas terrible pour le plancher océanique, mais le plancher océanique, c'est la plupart du temps, c'est un désert. Il y a des endroits où il y a une faune très riche, une activité biologique importante, mais la plupart du temps, les provinces océaniques, ce sont des déserts. Il n'y a pas de vie. Donc s'il y a un peu plus de plastique sur le plancher océanique, ben, j'imagine, hein, je voulais pas m'exprimer là-dessus, je m'exprime quand même, mais vous verrez avec lui, quoi.
D'accord, donc,
il s'appelle Yves Dandonneau et il sera ravi de correspondre avec vous, quoi.
Okay.
Voilà, donc on passe à autre chose. Muriel ou Mathieu, est-ce que vous avez une autre question?
Bah pour moi non, en tout.
Bah moi c'était toujours par rapport à l'agriculture, mais donc je verrai ça avec Monsieur Couturier.
Voilà, il s'est pas manifesté, Monsieur Couturier. Je l'ai relancé.
Non, pas encore. Bon.
Je vais le secouer.
Je vais vous dire.
Dites-lui que Muriel.
On est peut-être cousins. Hein.
Ma mère. Oui, en plus. Oui.
Voilà.
Je voulais vous dire, lui, Monsieur Couturier, il est à la fois président de Solagro et président de Negawatt. Il a aucune chance d'être disponible pour vous. Mais par contre, il a 30 personnes qui travaillent avec lui et qui connaissent bien le sujet dont vous voulez vous renseigner. Donc en fait, ce que j'attends de Monsieur Couturier, c'est qu'il vous désigne un interlocuteur.
D'accord.
Et s'il ne le fait pas, j'ai un backup. C'est-à-dire que je connais un employé, j'ai interagi avec un collègue de M. Couturier, il s'appelle Sylvain, je ne sais plus comment. Donc, je réfléchis en même temps que je vous parle, je vais écrire à Sylvain. Je vais lui mettre une copie du message que j'ai envoyé hier à Christian Couturier, en lui disant, est-ce que vous pourriez contacter cette dame? Je pense que vous êtes d'accord pour que je leur donne votre adresse à tous les deux.
Ah oui, oui, tout à fait. Pourvu que le travail avance, hein, moi.
Ok. Donc, je note ça. Je vais, en plus de relancer Christian, je vais relancer Sylvain.
Ok. Merci.
Voilà. Donc, maintenant, on va parler, si vous le voulez bien, du support là que j'ai mis sous vos yeux. Vous pouvez me confirmer que vous voyez, bonjour, ce doc est rédigé comme support aux échanges. Vous voyez ça?
Personnellement, je vois rien.
Ah.
Ben moi, je l'ai le texte, mais.
Pourquoi Mathieu ne le voit-il pas? Vous avez un zoom conforme? J'ai mis en partage.
Ah là, c'est bon, je le vois. C'est bon.
Parfait. Donc, il y a eu un événement majeur pour la CSS qui s'est produit lundi dernier, le 20 janvier. Il faut que vous sachiez qu'il existe dans le ministère. Dans les divers ministères, il y a le MTES, ministère de la Transition écologique et solidaire, où il y a des gens qui sont chargés de mettre en œuvre, de définir, d'appliquer, de mettre en œuvre et de réviser deux politiques qui sont essentielles pour le climat. L'une s'appelle la SNBC, ça veut dire la Stratégie Nationale Bas Carbone, et l'autre s'appelle la PPE, ça veut dire la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie. Alors, je promène le curseur, là, je ne sais pas si vous le voyez.
Ouais.
J'ai donné des définitions de ces deux trucs-là.
Mm-mm.
Alors, j'en profite pour faire un aparté sur lequel je reviendrai plus tard. Dès maintenant, je note que la SNBC devrait s'appeler la SNBC-F. c'est-à-dire la stratégie nationale bas carbone fossile. Fossile. Le mot fossile est manquant et je trouve que c'est très dommage. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et j'en profite pour noter une citation d'Albert Camus à laquelle je tiens beaucoup. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Toute la journée, aux informations, on entend parler du fait que l'Europe a décidé que, l'Europe n'est pas arrivée à ceci ou à cela. L'Europe, c'est un continent, ou à la rigueur, c'est une des muses de la mythologie grecque. Mais ce dont on parle quand on dit que l'Europe n'est pas arrivée ou qu'elle a fait ceci ou cela, c'est pas un continent, c'est une union politique qui s'appelle l'Union européenne, régie par le traité de Lisbonne, qui n'est que l'une des implantations possibles, l'une des réalisations possibles du rêve de Victor Hugo il y a plus d'un siècle, sur les États-Unis d'Europe. Mmh. Et c'est sans doute la pire, à mon avis. Mais, ouais. Voilà. Alors, j'ajoute une autre citation, si vous voulez. Mon but n'est pas d'être neutre. Mon but est de vous passer des messages que vous prenez ou que vous laissez. Mais je mets de côté la neutralité. Je partage des informations qui me semblent très utiles, très vraies, incontestables. Et bien entendu, vous pouvez les mettre de côté si elles vous paraissent mauvaises. Donc, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Les gens qui parlent de l'Europe toute la journée, ils profitent du fait qu'il y a l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est un continent, c'est sympa l'Europe. C'est pas du tout la bureaucratie de l'Union européenne qui est un véritable fléau.
Oui, je suis d'accord.
Voilà.
C'est vraiment super ce que vous dites.
La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est une citation d'Alfred Sauvy. Au milieu du XXe siècle, il y a plus de 50 ans, il disait « Bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés, ils sont des sujets. »
Ah ouais, bah oui.
C'est vraiment le cœur de métier de la CCC. Quoi. Si vous avez les bonnes informations, peut-être vous prendrez les bonnes décisions. Oui. Et si vous n'avez pas les bonnes informations, vous n'avez aucune chance de prendre les bonnes décisions.
C'est clair.
Voilà. Donc ça, je ne l'ai pas écrit, mais je le rajouterai peut-être. Voilà, je vais mettre Alfred Sauvy ici pour penser à enrichir ce texte.
Je vais couper ma caméra parce que je suis en train de manger quand même.
Mais... Je vous en prie. Moi, de toute façon, j'ai tout coupé. Alors, maintenant, je vais parler de la relation entre la CCC et les deux textes de loi, les futurs projets de loi, qui ont été mis en consultation publique lundi dernier par le MTES. Il s'agit d'un événement très important pour la CCC, puisque ces textes, discutés depuis plus d'un an, surtout avec les grands groupes industriels, concernent la raison d'être de la CCC. C'est-à-dire que le gouvernement, dont la préoccupation de cohérence, de rationalité de l'action est totalement théorique, absente, ne craint pas de poser la même question que des gens sont payés pour répondre. Et il ne se préoccupe pas de savoir qu'est-ce qui se passera si la réponse que vous apportez est incompatible avec la réponse qui vient d'être publiée par les fonctionnaires du ministère de Transition écologique et solidaire.
Ah oui,
Vas-y, Muriel.
Ah ouais, non, mais ça m'énerve, enfin, c'est n'importe quoi quand on se crée que... Enfin, moi, je sais plus si à un moment donné j'ai posé la question, mais il aurait fallu qu'il y ait moitié scientifique et moitié citoyen dans cette convention. Parce que comment on peut, en tant que citoyen, même si, bon, on peut avoir des idées, on peut réfléchir, je suis d'accord, mais on n'a pas les connaissances, donc c'est une pure hypocrisie, cette convention, comment elle a été faite. Moi, je ne comprends pas.
Alors... Muriel, moi je suis partagé là-dessus, parce que c'est quand même un événement historique auquel vous participez.
Oui.
Je veux dire qu'il y a déjà eu des conventions de citoyens, mais elles étaient organisées par des organismes privés avec des moyens très limités. Il y avait 20 citoyens, il n'y en avait pas 150. Il n'y avait pas de budget de 4 millions d'euros. Il n'y avait pas les meilleurs experts du pays qui venaient vous parler.
Ouais, je suis assez d'accord, mais ouais. Pour le coup, c'est c'est eux qui acceptent ou pas de nous donner la connaissance. Et le problème, il reste là.
C'est tout le problème, oui.
Oui. Oui, et puis en plus, c'est beaucoup trop court, c'est beaucoup trop rapide. Nous, il faut savoir qu'un mégawatt, il a fallu qu'ils nous parlent, mais à toute allure. Ils ont des sabliers pour nous parler. C'est
je suis...
On n'a pas le temps.
Je suis bien conscient de tout ça, donc on peut toujours faire verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Pour moi, le fait que vous soyez là, que cette conférence ait lieu, c'est le monde est moins pire que si elle n'avait pas lieu.
Oui.
À part ça, vous pouvez noter tout ce qu'il faudrait faire pour que ça soit encore mieux. Oui. Quoi qu'il arrive, même si vos recommandations sont mauvaises ou si elles sont excellentes mais qu'elles ne sont pas retenues, de toute façon, il restera quelque chose. Vous avez créé un événement extraordinaire. Donc, et j'espère que ça ne se passera pas comme ça. J'espère que vous aurez de bonnes recommandations et qu'elles seront retenues. Donc, je reviens à ces deux textes. Ces textes concernent la raison d'être de la Convention puisqu'ils fixent les priorités et les choix en matière de réduction des émissions. On vous a posé la question, comment faut-il réduire les émissions, et toutes les réponses sont dans ces documents. Sauf que ce ne sont pas forcément vos propres réponses. Alors, pourquoi j'insiste lourdement là-dessus? C'est parce que, à mon avis, il y a une occasion à ne pas manquer. Je veux dire que ces deux projets de loi sont mis en consultation publique du 20 janvier au 19 février. C'est-à-dire qu'on a déjà, foutu en l'air une semaine, quoi. Personne n'est au courant que ces consultations ont lieu. Il ne reste plus que 3 semaines. Il va y avoir les vacances scolaires au milieu. Tout ça est étudié pour. Les fonctionnaires qui pondent ces textes, ils n'ont surtout pas envie qu'il y ait des réponses à la consultation. Et quand il y en a, ils s'arrangent pour ne pas en tenir compte. La plupart... vas-y, si vous voulez intervenir, oui. Allez-y.
Non, juste
ça. Ça me fait rire.
Oui, lui, ça le fait rire et moi, ça m'agace.
Ok. Donc, l'existence de la convention qui est contemporaine de la sortie de ces textes crée une situation particulière, sans doute une occasion à ne pas manquer. Tandis que ces consultations publiques n'ont souvent que peu de conséquences, sauf de rares exceptions. Si vous voulez, vous parliez de Négawatt tout à l'heure. Négawatt a réussi un coup fumant en 2015. C'est-à-dire la loi sur la transition énergétique, la loi de Ségolène Royal, votée juste avant la COP21 en août 2015, dans son article 2, elle parle de sobriété. Elle parle d'usage raisonnable des ressources. Bon, c'est... tant que ça reste un texte que personne ne regarde, on peut dire que ça sert à rien. Mais d'un côté, c'est une révolution. Le fait d'avoir réussi, si vous voulez... Moi, quand j'ai adhéré à l'association Négawatt en 2006, on considérait que c'était des écolos un peu excités, complètement paumés... à côté de leur pompe, etc., etc. Et 9 ans plus tard, ils sont l'article 2, leur motto principal, leur message principal, hein, l'énergie la moins chère et la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas, se retrouve dans l'article 2 de la loi de la LTEC, la loi de transition énergétique. Voilà.
Donc, cette loi, elle fait partie de quoi, cette loi ? Sur la transition écologique,
Si vous voulez, c'est le texte qui gouverne le reste. Il y a une SNBC et une PPE parce qu'il y a une loi de 2015, la LTCV, la loi de transition énergétique est sur le... Voilà.
C'est sur la
août 2015.
Ou pas ?
Pardon ?
C'est pas ce qui est sur la Constitution ?
Non. Non, non. D'accord. Si vous voulez, dans la hiérarchie des normes, vous avez tout en haut la Constitution et en dessous, vous avez les lois ordinaires. L'une de ces lois ordinaires, et c'est la première loi sur la transition énergétique. Je pense qu'on n'avait jamais eu avant de loi sur la transition énergétique. Je n'ai pas préparé ce truc-là, hein, mais si vous tapez loi de transition énergétique 2015, vous trouverez tout ça. C'est un recueil de bons principes, de bonnes intentions. C'est là-dedans qu'on dit qu'on limitera la part du nucléaire à 50%. et les textes que vous avez sous les yeux qui sont sortis lundi dernier ont pour objet de modifier ça, de reporter l'échéance. Donc,
une parenthèse, vous n'êtes pas prêt de vous faire inviter sur BFM TV ou sur TF1?
J'ai pas compris. Excusez-moi, répète Mathieu.
Je dis une petite parenthèse, vous n'êtes pas prêt de vous faire inviter sur BFM TV ou TF1 en tout cas.
Oui, oui, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Si vous voulez, ce dont vous parlez là, c'est le rapport de force. C'est-à-dire que les messages nuisibles, les messages toxiques bénéficient d'une audience formidable et que les messages utiles ont une audience quasi nulle.
Ah bah oui, ça a toujours été le cas malheureusement.
Voilà, mais excusez-moi, vous êtes membre de la CCC et vous pouvez le dire. C'est ça qu'il faut dire.
Mais je me
c'est
suis
ça qu'il faut dire.
Je me dis à chaque fois qu'on y va, vous pouvez me croire.
Parfait.
Je me suis pas gênée.
Non, mais...
Du coup, je sais pas si vous avez regardé, parce qu'en fait, c'était avant midi, mon intervention là sur FR3. C'était en régional, donc je sais pas si...
Non, j'ai pas du tout. Excusez-moi, j'étais à table, j'étais pas mal occupé, mais je vais regarder ça sans tarder. Je vous ai pas fait peur de... Évidemment, j'admire tout ce que vous faites, hein, mais bon, comme on a peu de temps, je vais à l'essentiel, quoi.
Il n'y a pas de problème.
Okay.
Alors, je dis que les consultations publiques, jusqu'à présent, sauf de rares exceptions, comme le cas de l'article 2 de la loi de 2015, les consultations publiques ne servent à rien. Mais, avec l'existence de la CCC, on peut jouer un coup. C'est de ça que je voulais vous parler cet après-midi.
Oui. D'accord. Si attention, sur la terrasse. Hein. Allez-y.
Si jamais les commentaires qui seront publiés sur le site web du ministère et que personne ne regardera, si on en retrouve une partie dans les recommandations de la Convention, c'est-à-dire si les exigences de haut niveau, les exigences génériques, les exigences sur la sincérité, sur la cohérence, etc., etc., se retrouvent dans la Convention, dans les recommandations de la Convention, ben le ministère aura un peu plus de mal pour enterrer les commentaires de la consultation publique. Parce qu'ils pourront dire, mais attendez, vous êtes chargé d'appliquer les recommandations de la Convention, et nous, ce qu'on vous dit, c'est conforme aux recommandations de la Convention. Je ne sais pas si vous vouliez... Allô ?
Oui, justement, pardon, je vous ai coupé.
Non, allez-y, Muriel.
Par rapport à ça qui me révolte, c'est que... Alors, peut-être ça, je ne sais pas, peut-être que j'ai pas suivi, mais on nous a beaucoup parlé, parce qu'ils piochent, en fait, enfin, ils tirent au sort des citoyens parmi les 150, pour travailler avec le comité de gouvernance. Et il y en a un qui nous a pondu un texte sur la taxe carbone. Bon. Et si vous voulez, par contre, ils n'ont pas dit à des personnes, en fait, ils n'ont pas mis des personnes sur le poste de regarder sur les participations publiques. Donc, Mathieu, qu'est-ce que t'en penses ? Il n'y a personne qui a été tiré au sort pour travailler sur les propositions publiques.
Non.
Voilà.
D'accord. J'ai fait partie du comité de gouvernance et limite, on n'en a jamais parlé quand on m'info.
Alors ça, je ne comprends pas. Alors, c'est la première chose à faire.
Depuis le début, c'est un truc pourquoi je me bats. C'est-à-dire que j'estime que si on veut que la convention ait un impact, que les gens ils se sentent concernés et qu'ils puissent donner leur avis et leurs idées. Point.
Alors écoutez, moi je suis absolument pas en mesure de répondre. Je vais vous dire quand même ce que je pense, même si j'ai pas toutes les billes. Pour l'instant, je pense que les tentatives de manipulation sont limitées, que dans l'ensemble c'est quand même assez correct.
Ouais.
Et il y a deux épreuves de vérité. La première épreuve de vérité, c'est que il y a un organisme qui est payé pour ça. On peut dire c'est pas normal, etc., mais qui fait les synthèses des contributions. Vous savez qu'il y a eu une première vague de contributions jusqu'au 15 novembre, il a fait une synthèse. Il y a eu une deuxième vague de contributions jusqu'au 31 décembre, il a fait une synthèse. Et dans une semaine, quand ce sera terminé pour la troisième vague, il fera une synthèse de l'ensemble des contributions. Non. Une troisième synthèse pour la troisième période, dans laquelle, en passant, il y a ma propre contribution. Je verrai bien si je suis complètement occulté ou si elle est quand même mentionnée. Ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est que ces synthèses sont honnêtes. Et puis, de toute façon, les textes sont attachés. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller voir. Vas-y.
Il y a juste quelque chose que j'ai à dire. C'est que moi, j'avais proposé, donc, vous savez, le quota à l'importation et les taxes à l'importation. Et les quotas ont été basculés dans les questions à poser. Parce qu'en fait, on travaille en groupe et puis après, on change. Il y a 4 personnes qui travaillent. Après, il y a 4 autres personnes qui travaillent. Et en fait, l'expert, il m'a dit les quotas, enfin l'importation, on peut pas y toucher. C'est l'Europe, c'est pas possible. Et donc moi, je lui ai dit, bah oui, il y a des contrats qui sont signés, mais après, on peut justement travailler sur le futur et qu'il n'y ait plus de contrats signés, enfin ou un moindre, beaucoup moins que maintenant. Et j'ai dit, de toute façon, si on change la constitution, dans ces cas-là, ma proposition sur l'importation, elle est valable. Parce que si on préserve la biodiversité et l'écosystème, dans ces cas-là, ça change tout. Donc, il a laissé tomber parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas, il pouvait pas trop discuter avec moi, et c'est passé sur un autre groupe, et là, mon quota, il est passé dans les questions à poser. Parce qu'il a dû leur dire que c'était pas possible, et bon...
Je comprends.
L'Europe à la bando, l'Europe.
Alors, si vous voulez, là, c'est l'un des sujets énormes. C'est un véritable éléphant dans la pièce dont je voulais vous parler. Hein, et on va pas dire l'Europe. Hein. C'est fini, l'Europe. C'est l'Union européenne. Le traité de
l'Union européenne, pardon.
Voilà. Donc,
parlementaire, même, on pourrait dire.
Voilà. N'oubliez pas, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et donc, il ne faut pas servir la soupe aux gens qui cherchent à enfumer. Donc... Muriel, ce que vous avez vécu n'a pas de rapport direct avec la synthèse des contributions sur le site web. C'est l'indépendance. Ce que vous avez vécu, c'est en interne dans les discussions, il y a un type qui s'est montré, qui a manqué de neutralité. D'après ce que vous m'en racontez...
Oui, un expert.
Voilà, un expert qui a manqué de neutralité. Oui. Tu vois très bien, il a dit, ça dépend de l'Europe, guillemets, hein, ça dépend de l'Union européenne, donc défense d'y toucher. Et la question suivante c'est est-ce qu'on reste avec ce truc-là, défense d'y toucher, ou est-ce qu'on remet en cause des règles de l'Union européenne? Les règles de l'Union européenne, ce sont les règles qui ont été fabriquées par Giscard lors de la convention de 2004 qui a abouti au traité constitutionnel de 2005 qui a été rejeté par les Français et par les Hollandais. Donc en 2004, surtout un vieux schnock comme Giscard n'avait aucune idée des problèmes qui se posent aujourd'hui. Donc les règles du traité de Lisbonne, qui sont la copie conforme de ce qui avait été fait en 2004, sont totalement inadaptées. Il n'y a aucune chance qu'elles soient adaptées aux problèmes que pose la Convention. Donc ce dont vous avez à vous préoccuper, ça rejoint le thème de la cohérence de l'action publique dont je parle dans ma contribution du 7 janvier sur le site web. C'est, est-ce qu'on met de côté les règles du traité de Lisbonne qui sont des obstacles à l'objectif que vous m'avez signé, que vous m'avez assigné? Vous me demandez de réduire les émissions, mais il se trouve que les règles du traité de Lisbonne font obstacle à la réduction des émissions. Est-ce qu'on a le droit d'en parler ou est-ce qu'on se tait?
C'est comme le
sujet.
Moi, ils ne seront pas clairs. Hein, mais...
Non, mais soyez souverains. Soyez souverains. Vous représentez le peuple.
Oui.
Vous représentez le peuple. Donc si on vous dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas une réponse acceptable.
Oui, c'est ça. Il faut qu'on nous écoute.
Je vais vous donner un truc qui m'est arrivé, Marlène, pour vous confirmer. J'ai été dans l'hémicycle, on était devant le ministre de la Transition écologique et tous ces gens-là. Là, et je leur ai parlé des technologies qu'ils mettent sous placard depuis des années. Leur réponse, elle a été aussi claire que je vais vous la donner. On ne rentre pas dans le débat comme ça. On a pris le moment.
Mathieu, je suis très partagé, quoi, parce que j'ai beaucoup de sympathie pour ce que vous dites, et en même temps, je pense que parler de ça dans l'hémicycle, c'est se tirer une balle dans le pied. Je vous le dis très franchement, quoi, du fond du cœur. Hein. Les questions techniques sont secondaires. Je veux dire que vous pouvez tenir énormément à l'énergie du vide ou à je ne sais quoi, c'est secondaire. Il ne faut pas espérer que les progrès répareront les dégâts du progrès. Il y a un biais dans le progrès. Les conséquences négatives du progrès sont toujours plus importantes que les conséquences positives. Le truc auquel vous pensez, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, peut-être que c'est formidable, mais il y aura toujours des petits malins qui s'arrangeront pour en exploiter les côtés négatifs. Donc la vraie question, c'est de changer les règles humaines, les règles de comportement, les règles de décision. Et donc tout le temps que vous passez à faire la promo de je ne sais quelle technologie, c'est du temps perdu vis-à-vis de l'essentiel. Excusez-moi, je suis un peu acide là, Mathieu.
J'en ai jamais reparlé, mais ces gens-là, ils ne veulent même pas débattre avec moi. Ils ne sont même pas intéressés par ce débat-là. Ce qu'ils sont capables de faire, c'est de botter en touche.
Bien d'accord. Alors, je reviens à mon guide. Là, on a fait une parenthèse importante sur l'Europe et sur le traité de Lisbonne.
Oui.
C'est vraiment un point sur lequel je voulais parler, mais pratiquement on l'a traité déjà. C'est si les règles du traité de Lisbonne, qu'on ne peut pas modifier sans unanimité, et il y a plusieurs dizaines de droits de veto. La France en a deux, quoi. Il y a le veto du gouvernement et le veto du Parlement. L'Allemagne en a trois, parce qu'en plus il y a la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Donc il y a plusieurs dizaines de droits de veto qui empêchent de changer les textes qui ont été conçus il y a presque 20 ans sans aucune considération de la problématique du changement climatique.
Bien sûr.
Question, si les dispositions du traité de Lisbonne sur le libre-échange, sur la libre circulation des marchandises, sur la libre concurrence et compagnie sont des obstacles pour le changement climatique, qu'est-ce qu'on fait?
On devrait les refuser. Je suis navré.
On peut pas les refuser. Tout ce qu'on peut faire, c'est soit les remettre en cause, les renégocier, mais il y a, comme je répète, il y a plusieurs dizaines de droits de veto, et l'autre méthode, c'est de dénoncer ces dispositions. Mais en tout cas, il ne faut pas rester silencieux sur ce sujet.
Je suis totalement d'accord.
Ok. Alors, je vous parle maintenant de ce que j'essaye de faire. Je reviens à la question des textes mis en consultation publique.
Oui.
J'ai dit que ce serait un coup fumant, que ce serait vraiment très intéressant d'arriver à faire un couplage, une synergie, une complémentarité entre les recommandations de la Convention et l'enquête publique qui a lieu en ce moment et qui probablement sera totalement ignorée. Alors, comme c'est un exercice super difficile, ça, moi j'ai lancé un certain nombre de collègues, j'ai des amis à Négawatt, j'espère qu'ils vont pondre des documents assez courts, disons sur une demi-page ou sur une page, pour parler de recommandations de haut niveau, de recommandations génériques, de recommandations qui se déclinent après dans tous les compartiments du jeu. Et si on fait ça, ben après ça, il faut discuter le calendrier qui est extrêmement tendu, quoi. Je comprends que vous devez déposer vos recommandations le 8 février. Est-ce que je me trompe?
Oui.
Si c'est ça, le dernier week-end, le dimanche de la prochaine session, c'est ça.
C'est le 8 février. Donc, il faudrait que d'ici, par exemple, j'ose pas dire le 1er février, quoi, c'est demain, on vous communique des textes que vous-même vous allez mettre en circulation dans la Convention pour que ces textes aient une chance de devenir des recommandations de la Convention.
Bien sûr.
C'est jouable, ça? Est-ce que je continue sur ce scénario-là? Est-ce que ça a une chance de se réaliser?
Bien sûr. C'est notre rôle, quelque part.
D'accord. Voilà, donc je ne vous garantis pas du tout qu'on aura des textes d'ici le 4 février, mais d'ici le début février, en temps utile pour vous pour le 8 février, et puis on fera du mieux qu'on peut, hein. Voilà. Mais j'ai déjà passé plus d'une heure hier au téléphone avec l'ancien président de Négawatt, qui s'appelle Thierry Salomon, qui est un ami, pour lui parler de ça.
D'accord.
Et si vous avez contact avec Christian Couturier, vous pouvez lui poser la même question, puisque lui, il est à la fois président de Solagro et président de Négawatt. Il a deux sortes de recommandations à vous proposer, même s'il ne le sait pas. Alors, je dis l'existence de la CCC crée une situation particulière, on en a parlé. Le but est de prendre en fourchette les malades qui nous gouvernent, quoi. Les menteurs qui nous gouvernent. C'est-à-dire qu'ils soient pris en fourchette entre les commentaires qu'il y aura sur la consultation publique sur le site du ministère et les recommandations faites par la commission, par la convention. Voilà. Alors, comme vous le voyez, jeudi étant membre de l'association Mégawatt, je pourrais vous faire passer les commentaires de cet assaut. Le ministère ne les rendra public qu'après le 19 février, c'est-à-dire que vous n'en aurez pas connaissance en temps utile pour le 8 février, mais je peux m'arranger pour vous les faire passer avant, et le cas échéant, je vous ferai passer les miens aussi. Okay. Et naturellement, vous êtes complètement libre, quoi. Il n'y a aucun engagement. Jamais je vous reprocherai de ne pas avoir fait circuler ces textes.
De toute façon, ça sera un plaisir pour ma part.
Ok. Donc, maintenant qu'on a bien cerné ce problème de l'opportunité, quoi, du coup à jouer, de la chance qu'on a de pouvoir faire un coup, quoi. On va parler d'autre chose. J'ai déjà insisté sur le fait que le mot fossile est absent. Là, on va revenir à des sujets techniques. Excusez-moi, je vais prendre un peu de café, là, parce que pas beaucoup.
Allez-y.
Alors, pourquoi... Je vais vous raconter un truc super technique, là. Mais en même temps, c'est un peu comme le Gulfstream, ça peut vous intéresser. On va parler de ce qui se passe depuis des millénaires avant que le changement climatique soit en cause, avant qu'on exploite les combustibles fossiles situés sous la croûte terrestre. Chaque année, il y a un cycle saisonnier. Il y a les feuilles qui poussent au printemps dans l'hémisphère nord et qui retombent à l'automne et l'inverse dans l'hémisphère sud. Et puis dans l'océan, c'est pareil. Il y a les algues qui poussent au moment où il y a de la lumière, beaucoup de lumière, et qui crèvent et qui tombent au fond pendant la saison froide. Tous ces échanges-là mettent en jeu des quantités colossales de gaz carbonique. Pour vous donner une idée, les échanges entre la surface continentale, la végétation de la surface continentale et l'atmosphère, c'est 400 milliards de tonnes par an. C'est-à-dire, c'est environ 10 fois la perturbation dont s'occupe la Convention. La perturbation par les combustibles fossiles, c'est 40 milliards de tonnes, en chiffre rond. Et là, ce dont je vous parle, le cycle saisonnier de la végétation, chaque année, c'est 400 milliards de tonnes. Pour l'océan, il y a encore 220 milliards de tonnes à rajouter. Au total, les échanges entre l'atmosphère et les deux autres compartiments de la machine climatique. Il faut vous représenter la machine climatique comme trois réservoirs de carbone. Un des réservoirs, c'est l'atmosphère. L'autre réservoir, c'est la biosphère continentale, les sols et la végétation. Et le troisième réservoir, c'est l'océan. Évidemment, il y a d'autres compartiments moins importants. Il y a la cryosphère, quoi. Il y a les calottes glaciaires, il y a les glaciers continentaux, mais l'essentiel se passe dans les trois compartiments dont je vous parle. Ces trois compartiments échangent chaque année un peu plus de 600 milliards de tonnes de carbone, c'est-à-dire un peu plus de 15 fois la perturbation qui nous préoccupe. Et depuis des millénaires, le solde de ces échanges, c'est comme le solde de la sécurité sociale. Il est très faible ou nul. C'est quelques pourcents. Et on s'en fout. Ça veut dire que le cycle du carbone est un équilibre. Que ces échanges se traduisent par très peu de variations, quoi. La composition de l'atmosphère reste la même. Il n'y a pas d'enrichissement en gaz carbonique. La composition de l'océan augmente un peu, etc. En réalité, il y a sans cesse du gaz carbonique qui est produit en plus dans l'atmosphère, mais qui est stocké dans l'océan ou dans la biosphère continentale. Autrement dit, on recycle un stock constant entre les trois compartiments. Il n'y a aucune augmentation globale de l'ensemble du stock dans les trois compartiments. On se contente de déplacer des petites quantités entre les trois compartiments. Que se passe-t-il quand tout d'un coup on découvre le pétrole et le charbon et qu'on l'exploite? C'est qu'on prend du carbone qui était à plusieurs milliers de mètres sous terre et qui n'avait plus aucun contact avec l'atmosphère et avec la biosphère depuis des millions d'années, et là, on augmente le stock. Chaque année, on met environ 40 milliards de tonnes, ce n'est que 6% du total des échanges dont je vous parlais tout à l'heure, mais ces 40 milliards de tonnes, au lieu que le solde soit nul, il y en a la moitié environ qui reste dans l'atmosphère. Vous me suivez toujours? N'hésitez pas à poser des questions.
Ouais.
Ok. Voilà. Donc, pourquoi j'insiste pour qu'on parle de carbone fossile? Parce que dans la stratégie nationale bas carbone, j'espère, je souhaite de toutes mes forces qu'il y ait beaucoup de carbone. Beaucoup de carbone non fossile. Qu'il y ait des immeubles en bois, qu'il y ait de la biomasse énergie, qu'il y ait du biogaz. Tout ça, c'est du carbone. La stratégie nationale bas carbone devrait s'appeler la stratégie nationale haut carbone, non fossile. D'accord?
Oui.
Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne pense pas que ce soit de la perversité, je ne pense pas que ce soit l'intention de tromper. C'est simplement la faute à pas de chance, quoi. C'est-à-dire qu'on dit la stratégie nationale bas carbone, et tout le monde, et on suppose que tout le monde est au courant qu'il s'agit uniquement du carbone fossile. Alors que je pense que vous n'en avez pas conscience, quoi. Je vous pose la question.
La première experte qui est venue, elle nous a beaucoup parlé du carbone fossile, quand même. Hein.
Très bien.
Oui.
Si on est dans les deux documents les plus lus de la SNBC, il y a une dizaine de documents, dont trois ou quatre publiés. Parmi les 10 documents publiés par le ministère, il y en a 3 ou 4 qui sont mis en consultation. Et il y en a 2 qui seront lus par le grand public. L'un qui s'appelle la SNBC en 10 points, et l'autre qui s'appelle le résumé de la SNBC, en 4 pages.
D'accord.
Dans ces deux documents, le mot fossile est absent. Il n'apparaît pas. Il faut ouvrir les documents techniques beaucoup plus volumineux pour qu'on parle de combustible fossile. Pour moi, c'est une faute majeure. Parce que le public, quand il voit des trucs contradictoires, des trucs incohérents, sa première réaction, c'est de dire « on m'enfume, on me balade, on me trompe ». Voilà. Donc, on vous parle de stratégie nationale bas carbone, et en même temps, on vous dit qu'il faut faire pousser des arbres, qu'il faut faire des immeubles en bois, qu'il faut faire du biogaz, qu'il faut faire de la biomasse énergie, et tout ça, c'est du carbone. Donc, c'est la stratégie nationale bas carbone fossile.
Ok.
Voilà, je pense que j'ai lourdement insisté sur ce point. Alors, il y a des tas d'effets pervers qui pourraient vous perturber, mais au point où on en est, c'est dans l'épaisseur du trait. Enfin, non, c'est quand même pas dans l'épaisseur du trait. Je vais vous en dire un mot. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des programmes de compensation carbone. Qu'est-ce que c'est que la compensation carbone? C'est quand un milliardaire se promène avec son yacht qui brûle 700 litres de pétrole à l'heure, il achète des certificats. Alors il y a des associations, des gens tout à fait estimables, hein, plein de bonne volonté, qui profitent de dispositions qui ont été glissées dans les accords de Kyoto ou ailleurs, pour dire, ben, si vous faites pousser du bois dans certains pays, ben, ça extrait du carbone de l'atmosphère, donc vous achetez des permis de polluer. Vous achetez le droit de brûler 700 litres à l'heure.
Et vous pouvez lire comment on peut interdire ces permis de polluer? Parce que je sais que ça se fait d'un pays à l'autre, ils achètent les points.
Ouais, attendez, il y a deux choses très différentes. Hein. Là, on est en train de parler des quotas carbone. Là, ta question, Muriel, c'est les quotas carbone. Et moi, je parlais d'autre chose. Donc, je vais revenir après au quota carbone.
D'accord.
Donc, sur la compensation carbone, c'est simple, quand je disais c'est dans l'épaisseur du trait, Je veux dire, ça joue sur des quantités tout à fait négligeables. Et ça peut avoir des effets pervers. C'est les Indiens Kogi dont je parlais tout à l'heure. On les expulse, on les fout dehors. Évidemment, on massacre les orang-outans, tout ce qu'il y a à Bornéo ou ailleurs, pour planter des arbres. Et après ça, on dit aux gens, vous pouvez brûler 700 litres à l'heure parce que grâce à vous, à l'argent que vous m'avez donné, j'ai planté des arbres. Voilà. Vous verrez beaucoup d'annonces de réunions où on dit entièrement compensé. Je crois que la COP 24 ou 25 à Madrid était entièrement compensée. C'est des conneries. Voilà. Parce que le résultat, si vous voulez, moi j'ai un ami, il fait des fourneaux pour les Africains, et les dames africaines, elles passent plusieurs heures par jour à aller chercher du bois pour cuire la nourriture. Eh bien, il fait des fourneaux qui brûlent moins de bois. Donc les femmes africaines, elles y gagnent, quoi. Elles passent un peu moins de temps à aller chercher du bois. Eh bien, avec ça, vous savez comment il est financé? Il est financé en vendant des permis des certificats de réduction d'émissions. Donc, je suis très partagé, quoi. Je veux dire que l'action qu'il fait est tout à fait honorable et utile, mais ça n'a aucun rapport avec le climat. Ça rend service aux femmes africaines et il faudrait le faire avec ou sans crise climatique. Il y a un effet d'aubaine, quoi. Il y a un détournement, etc. Maintenant, on va parler des quotas. Vous avez bien fait de soulever ce sujet, je l'avais complètement zappé. Il est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a deux traitements. Il y a le traitement des citoyens qui sont soumis à la taxe carbone et qui produit le mouvement des Gilets jaunes. Et vous avez le traitement des industriels qui sont soumis à un autre dispositif qui s'appelle les quotas carbone. Et comme évidemment, je crois que j'en ai parlé... Non, j'en ai pas encore parlé de ça. Je vais faire une parenthèse. Quand les industriels viennent au ministère et que le ministère leur dit il faudrait faire ça, il faudrait faire ci, compagnie, au bout d'un moment, s'il y a un truc qui ne plaît pas aux industriels, les industriels disent aux fonctionnaires du ministère « Ah ben si vous faites ça, nous, notre rentabilité va chuter, on ne pourra pas continuer, on sera obligé de licencier du monde. » Et aussitôt, les fonctionnaires se amènent. Il y a une telle priorité qui est accordée à l'emploi, à la sauvegarde de l'emploi, qu'il suffit qu'un industriel dise que telle mesure va provoquer des licenciements pour que le gouvernement s'écroule, s'efface, dise amen. Or, la réalité, c'est qu'avec les progrès de l'automatisation, de l'informatique, et je ne vous parle pas de la 5G, ben les emplois disparaîtront de toute façon et il n'y aura assez de travail pour tout le monde. Donc en fait, ce qui est en cause, c'est toute une partie de notre culture judéo-chrétienne, quoi. C'est gagner son pain à la sueur de son front, c'est l'effort enrichissant, etc., etc. Tout ça, c'est des vieilleries. Je veux dire qu'il y a des gens qui ont besoin de bouffer, et ils ont besoin de bouffer même s'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Donc cette priorité accordée à la sauvegarde de l'emploi, c'est encore un truc qu'il faudrait faire exploser, quoi. Parce que qu'est-ce que c'est que les quotas carbone? Je reviens à mon sujet. C'est que quand on a parlé de mettre des quotas carbone, les industriels ont tout de suite levé les bras au ciel en disant « Mais on peut pas, ça va pas marcher, on va être obligé de licencier. » Donc on leur a distribué des quotas gratuits. On leur a donné gratuitement des permis de polluer. Et puis avec les règles du libre-échange, la sacralisation du tout marché, la main magique du marché, vous savez, les acteurs rationnels et parfaitement informés qui organisent dans leurs échanges une allocation optimale des ressources. Tout ce que je vous dis là, c'est un tissu de conneries, quoi. Les acteurs ne sont pas rationnels et ne sont pas parfaitement informés. Mais il n'en reste pas moins qu'on a organisé un marché des quotas carbone, c'est-à-dire que l'industriel indien, là, qui avait racheté les hauts fourneaux, en fermant les hauts fourneaux, eh bien, il pouvait distribuer des dividendes aux actionnaires, puisqu'il avait des quotas carbone qui lui avaient été attribués gratuitement et qu'il pouvait revendre puisqu'il n'en avait plus besoin, il avait fermé les hauts fourneaux, et ça lui rapportait plus que de continuer à faire tourner les hauts fourneaux. Voilà, ça c'est la tragédie, comment dire, de l'incompétence, quoi. On prend des mesures au niveau international, ce dont je vous décris là, c'était dans le protocole de Kyoto il y a 25 ans, quoi. Quand on a signé le protocole de Kyoto en 97, les Américains ont fait une campagne formidable pour ce marché des quotas carbone, qu'ils n'ont pas appliqué chez eux, mais du coup les Européens, les bureaucrates de Bruxelles ont trouvé ça super et ils l'ont pris chez eux. Ça a donné toutes sortes d'effets pervers, des fraudes massives à la TVA, et le marché des quotas carbone, la tonne de carbone, elle doit valoir 5 ou 6 fois moins cher que ce que nous payons en tant que particulier. Je n'ai pas les chiffres exacts, hein. Je ne garantis pas le 5 ou 6. Ça va, vous avez suivi là ?
Oui, j'ai suivi.
Voilà. Donc, j'ai parlé de deux choses très différentes. Hein. J'ai parlé de la compensation carbone là, pour les femmes africaines, c'est dans l'épaisseur du trait. Et puis, j'ai parlé des quotas carbone pour l'industrie, et ça, c'est pas dans l'épaisseur du trait. Alors, je regarde où j'en suis sur mon guide d'entretien, là.
Vous êtes merveilleux. Sérieux, vous êtes merveilleux.
Oui.
C'est sympa de me dire ça. Donc, pourquoi il est dommage d'oublier le mot fossile, on en a parlé. Et si vous allez voir les ROCOM qui sont à la fin de ma contribution, vous voyez ma contribution, tiny URL, message CCC, ça va l'ouvrir. Voilà, je clique, ça va l'ouvrir. Alors il y a une mesure, est-ce que vous êtes sûr que ce site est bon? Alors oui, je suis sûr. J'ouvre. Voilà, il y a 8 paragraphes, des résistances et des oppositions à prévoir. Vous savez, quand j'étais sur la péniche là, pour le crime apéro numéro 3, vos collègues de la convention, là, l'autre Muriel et tout ça, vous savez ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, comportez-vous comme si vous étiez au milieu d'un champ de mines.
Ah ben c'est totalement ça, de toute façon.
Voilà, donc...
Grégory nous a rejoint.
Qui donc?
Grégory. Ouais.
Ah, oui, alors, je voudrais saluer Grégory. Je vais arrêter le partage, remettre la vidéo... Je vais lancer ma caméra.
Tu vas aimer, Greg. Tu vas aimer.
Ouais, désolé, j'ai pas pu. Enfin, je suis à fond. J'ai un oral demain. Donc, du coup, je suis en train d'écrire. Voilà. Je suis un peu en retard, en vrai.
Aïe.
Alors, participants. Bon, bah écoutez, on va faire un exercice sympa. Vous allez raconter à Grégory qui je suis.
C'est un peu compliqué quand même.
C'est ce qui contient
les crayons en graphite.